RFI à Paris, il est 7h, 8h à Ragnonès, 10h à Bakou.
RFI matin.
Bonjour François Ballarin.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une, les États-Unis et de nouvelles nominations dans la future administration Trump.
La rumeur enflait, c'est désormais officiel. Le sénateur de Floride, Marco Rubio, opposition très dure sur la Chine, est confirmé au poste de secrétaire d'État. Tulsi Gabbard, transfuge démocrate devenue républicaine, est-elle nommée directrice nationale du renseignement. Israël ouvre un nouveau point de passage pour acheminer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Insuffisant, vous allez l'entendre, pour subvenir aux besoins de la population. Israël, une nouvelle fois accusé de crimes contre l'humanité par Human Rights Watch. 5 ans de prison, dont 2 fermes et 5 ans d'inéligibilité. Peine requise contre Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement National au Parlement européen. Et un possible coup dur pour le parti d'extrême droite avant la prochaine présidentielle. Dans ce journal, nous sommes aussi à Bakou avec la suite de la COP29, mais aussi au Sénégal à 3 jours des élections législatives anticipées.
Aux États-Unis, Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche.
Le président élu, mais pas encore investi, a été reçu par Joe Biden hier. Après une poignée de main entre les deux hommes, Donald Trump a assuré que la transition sera la plus fluide possible. Le président démocrate en exercice plaide de son côté pour le maintien du soutien à l'Ukraine auprès de son successeur. Rien n'est moins sûr au vu des dernières nominations opérées par Donald Trump pour composer sa future administration. Nomination parfois étonnante à Washington, les précisions de Guillaume Nodin.
Pour décrocher une position clé dans l'administration Trump 2, il y a une qualité qui vient manifestement avant les autres, c'est la loyauté, voire même une forme d'allégeance. C'est ainsi que le président élu choisit un personnage controversé pour devenir ministre de la Justice, mais un personnage qui le soutient envers et contre tout, l'élu de Floride, Matt Gaetz, 42 ans, connu jusqu'ici pour avoir, avec un petit groupe de républicains radicaux, fait tomber l'ancien speaker de la Chambre, Kevin McCarthy. Donald Trump se dit persuadé qu'il mettra fin à l'instrumentalisation de la justice dont il est estime avoir été victime. Peu importe également si Matt Gaetz est soupçonné d'avoir eu une relation tarifée avec une mineure lors d'une soirée où circulait aussi de la drogue. Il a démissionné de ses fonctions à la Chambre et l'enquête de la commission d'éthique à son sujet s'en trouve automatiquement arrêtée. Étonnement aussi après la nomination de l'ancienne démocrate devenue trumpiste convaincue Tulsi Gabbard comme directrice nationale du renseignement. Étonnement en raison de ses prises de position conformes à celles de la Russie sur la guerre en Ukraine et sa compréhension affichée pour le dictateur syrien Bachar el-Assad. Enfin, cela a pris quelques jours, mais le sénateur de Floride Marco Rubio, connu lui pour ses positions très dures sur la Chine, est confirmé au poste de secrétaire d'État. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Israël qui a annoncé cette semaine l'ouverture d'un nouveau point de passage vers Gaza.
Objectif, permettre l'acheminement de l'aide humanitaire et des marchandises. Il faut dire que Washington menaçait de suspendre ses livraisons d'armes à Israël si le pays ne laissait pas entrer d'aide vers le nord de l'enclave à la veille de la fin de cet ultimatum. Israël décide donc d'ouvrir un troisième point de passage. Pourtant, la situation dans l'enclave reste catastrophique, surtout dans le nord du territoire en guerre, au bord de la famine, selon l'ONU. Entre les campagnes de communication de l'armée et la réalité sur le terrain, les différences sont notables, estime un économiste gazaoui interrogé à Gaza par Amir El-Megari avec Sami Boukhelifa à Jérusalem.
100 000 tonnes de denrées, soit l'équivalent de plus de 2 mois de rations alimentaires pour l'ensemble des 2 300 000 gazaouis sont bloqués actuellement aux portes de la bande de Gaza, affirment les Nations Unies. Économiste gazaoui Mohamed Abou Jayeb suit de près le marché alimentaire de Gaza.
Les Israéliens adorent les campagnes de propagande. Ça leur permet de donner des gages à la communauté internationale et aux ONG, de leur faire croire qu'ils font de leur mieux pour améliorer les conditions humanitaires et alimentaires dans la bande de Gaza.
L'armée israélienne, via le COGAT, son organe de gestion des affaires civiles palestiniennes, précise avoir ouvert 5 points de passage en tout pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Chaque jour, des camions chargés de nourriture, d'eau, de médicaments et d'abris sont autorisés à entrer dans Gaza, assure son porte-parole. Mais dans les faits, estime Mohamed Abou Jayeb, la situation reste désastreuse.
Depuis début octobre et jusqu'à aujourd'hui, Israël n'a permis à aucun commerçant palestinien de faire entrer des marchandises à Gaza. Cette situation ouvre la voie à la contrebande et à la corruption. Et c'est le citoyen palestinien qui en paye le prix en bout de chaîne. Les prix sont exorbitants, c'est de la folie.
Avant la guerre, un sac de farine de 25 kilos coûtait dans les 5 euros. Aujourd'hui, c'est 10 fois plus cher. Rami El-Merari, Gaza, Sami Bourkifa, Jérusalem. RFI.
Et au-delà de l'aide humanitaire qui entre au compte-gouttes dans l'enclave, Israël est responsable de crimes contre l'humanité à Gaza, selon Human Rights Watch.
C'est ce qui ressort d'un rapport publié ce jeudi par l'ONG. Il y a près de 6 mois, le procureur de la Cour pénale internationale avait demandé l'émission de mandats d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense Yoav Gallant. Mandats qui n'ont toujours pas été émis alors même que l'armée israélienne poursuit son incursion dans la ville de Beit Hanoun, dans le nord de Gaza, poussant de nouvelles familles sur les routes. Le rapport détaille point par point ces accusations et appelle à une nouvelle fois la communauté internationale à réagir. Ahmed Benchemi de Human Rights Watch.
Un point clé de notre nouveau rapport est de rappeler au public que crime contre l'humanité, ce n'est pas juste une expression qu'on jette comme ça sous le coup de l'émotion. Non, crime contre l'humanité, c'est une appellation juridique. C'est une catégorie spécifique du droit international humanitaire, également connue sous le nom loi de la guerre. Autrement dit, avant de qualifier des actes militaires de crimes contre l'humanité, il faut faire des enquêtes, des recherches, des efforts de documentation minutieux et une analyse juridique pointue. Il se trouve que tout ça, nous l'avons fait. Sur la base d'une enquête méticuleuse et d'une analyse juridique non moins méticuleuse, notre enquête dément les justifications israéliennes point par point et conclut au crime contre l'humanité.
Ahmed Benchemi, membre de Human Rights Watch, interrogé par Oriane Verdier. Et c'est dans ce contexte que l'équipe de France de football accueille l'équipe israélienne au Stade de France ce jeudi soir pour le compte de la Ligue des Nations. Et ce, une semaine après des violences survenues à Amsterdam en marge d'un match du Maccabi Tel Aviv. Un dispositif de sécurité exceptionnel est mis en place pour cette rencontre. Rencontre qui fait réagir la classe politique française, vous l'entendrez dans le journal de 7h, temps universel.
La France où l'actualité est aussi politico-judiciaire avec la suite de l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement National au Parlement européen.
Et la tournure du procès de plus en plus difficile pour le RN au fil des jours laissait craindre le pire pour Marine Le Pen. Les réquisitions du parquet dans le cadre de cette affaire sont en effet très lourdes, en particulier pour la triple candidate à la présidentielle. 5 ans de prison, dont 2 fermes et 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate, Aurélien Devernois.
Si les juges suivent les réquisitions, Marine Le Pen pourrait donc être condamnée à manquer la prochaine élection présidentielle. La peine d'inéligibilité serait en effet valable, même si la chef de file du RN fait appel. Le procureur l'a d'ailleurs spécifiquement précisé lors de son réquisitoire. Un scénario catastrophe pour le Rassemblement National, une violence a tempêté Marine Le Pen à la sortie de la salle d'audience. La volonté du parquet est de priver les Français de la capacité à voter pour ce qu'ils souhaitent, a-t-elle ajouté. Ce mobile politique, c'est ce que martèle le RN depuis le début du procès, ce qui n'a sans doute pas attendri l'accusation. Aussitôt les réquisitions révélées, c'est tout l'écosystème Le Pen qui s'est activé, notamment sur les réseaux sociaux avec le hashtag « Je soutiens Marine ». Jordan Bardella est lui aussi rapidement monté au créneau. Le président du RN a fustigé un esprit de vengeance et une atteinte à la démocratie. Reste qu'il pourrait bien être le grand gagnant de ce procès, représentant l'alternative la plus évidente pour le RN en cas d'empêchement de Marine Le Pen. L'avocate de formation qui doit se mordre les doigts d'avoir négligé le risque de l'exécution provisoire de sa peine en raison d'une loi entrée en vigueur à la toute fin des faits qui lui sont reprochés.
Aurélien Devernois.
À Bakou, en Azerbaïdjan, 4e jour ce jeudi de discussion sur le climat à la COP29.
Hier, le sommet des chefs d'État s'est clôturé après 2 jours de prise de parole. Le président azerbaïdjanais en a profité pour répéter que les gisements pétrogaziers sont un cadeau de Dieu. Ilham Aliyev qui dénonce au passage l'hypocrisie de certains chefs d'État occidentaux qui critiquent l'organisation de la COP29 dans un pays producteur de pétrole tout en continuant à en acheter. Ce dernier en a également profité pour faire la promotion de la transition énergétique de son pays. Les précisions à Bakou de notre envoyé spécial Manon Chaplin.
Dans les allées de la salle d'exposition de la COP29 ouverte au public, un pavillon attire particulièrement l'œil, celui du fournisseur électrique Azerichik qui expose les nouveaux projets implantés dans le Haut-Karabakh, région historiquement disputée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, récupérée par Bakou au terme d'un assaut éclair en septembre 2023. Aïssana Imedava, membre de la compagnie.
Sur ces territoires, nous développons seulement des énergies renouvelables, comme des panneaux solaires, des éoliennes ou encore des centrales hydroélectriques.
Le président azerbaïdjanais veut faire du Haut-Karabakh une nouvelle zone d'énergie verte. Au total, 72 centrales hydroélectriques devraient y être construites d'ici 2030, explique un ingénieur croisé sur le pavillon azerbaïdjanais qui a souhaité rester rester anonyme.
C'est important pour nous de parvenir à cette transition énergétique, car le pétrole et le gaz dont nous disposons ne durera pas indéfiniment.
L'Azerbaïdjan a justement été critiqué pour accueillir la COP29, alors qu'une grande partie de son économie est basée sur l'extraction et l'exportation de ses gisements pétrogaziers.
Et alors, c'est le cas de beaucoup de pays, non? Et comme l'a dit notre président, il y a une demande mondiale de pétrole, nous y répondons.
Nombre d'ONG estiment que le pays profite surtout du sommet pour verdir son image à l'international. De fait, l'ex-République soviétique compte augmenter sa production de gaz naturel de 35% au cours des 10 prochaines années. Manon Chaplin, à Bakou, RFI.
RFI 6h10 à Dakar, au Sénégal, J-3, avant des législatives cruciales.
Et la campagne Andréane se poursuit dans un climat tendu entre le PASTEF et l'opposition. L'une des particularités, c'est que l'ex-président Macky Sall a choisi de revenir dans le jeu politique à la tête de l'une des principales coalitions d'opposition, Takou Wallou. Mais il fait campagne à distance depuis Marrakech. À Dakar, les explications de Léa Lisa Vesterov.
Nous sommes tout le temps en contact par téléphone, affirme Abdoumbo, l'un des cadres du parti de Macky Sall. Même son de cloche chez le coordinateur de la campagne de Takou Wallou, Sédou Gueye, qui parle d'une présence digitale et vocale importante de l'ex-président qui, depuis le Maroc, lui parle plusieurs fois par jour et participe à toutes les réunions. Pour ses fidèles, l'absence de la tête de liste nationale ne porte donc pas préjudice à leur coalition. La stratégie a été adaptée, avec dans chaque département la tête de liste locale qui fait campagne sur le terrain, le choix aussi de faire du porte-à-porte plutôt que des grands rassemblements, enfin de s'associer dans presque tous les départements du pays avec la coalition de l'opposition Sam Sakadou, emmenée par le maire de Dakar, une intercoalition qui doit servir à récolter plus de voix de l'opposition. Reste à savoir pourquoi Macky Sall a choisi de ne pas revenir au Sénégal battre campagne. L'ex-président ne s'en est pas expliqué. Pour le professeur de sciences politiques Maurice Soundiek Dion, un retour aussitôt du président sortant n'a pas été envisagé, car il risquait, je cite, de créer des tensions alors que le Sénégal sort d'une période très difficile en matière de violation des droits et des libertés. Léa Lisa Vesterhoff, Dakar, RFI.
Culture et langue française pour conclure ce journal.
Et oui, l'Académie française vient de publier le 4e volume de la 9e édition de son dictionnaire, 90 ans après la précédente. Une version papier va être remise à Emmanuel Macron aujourd'hui et l'événement célébré par une cérémonie sous la coupole. Isabelle Chenu.
Vous vous êtes peut-être déjà demandé à quoi sert l'Académie française et les 40 académiciens qui la composent. Eh bien, avant toute chose, à établir un dictionnaire mûrement réfléchi, seulement 9 versions en 330 ans. Les immortels évoluent dans un temps long, sans céder aux effets de mode et aux anglicismes. Cette nouvelle édition compte 53 000 références, dont 21 000 nouveaux termes. Ses détracteurs estiment qu'à ce rythme de travail, le dictionnaire est très vite périmé. Ils rappellent aussi que les académiciens ne sont pas des linguistes. La bonne nouvelle, c'est que le site internet de l'Académie regroupe désormais les 9 éditions complètes, 20 tomes, une mine d'informations consultables gratuitement partout dans le monde. Au fil des recherches, on découvre que le mot « femme », par exemple, n'est qualifié d'être humain que depuis 1935. Avant cela, la définition était « femelle de l'homme ». Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de femmes à l'Académie française. La commission du dictionnaire qui se réunit tous les jeudis matins va désormais s'atteler à la 10e édition. Il faut tout recommencer depuis la lettre A.
Fin de ce journal. Suite d'RFI Matin avec vous, Andréane Mellard.
Merci François Ballarin. Tout à l'heure. RFI Matin dans 20 minutes, l'information africaine. Mais d'abord, notre invitée internationale, la chercheuse indépendante et autrice Ophélie Coelho. Elle répond aux questions d'Arnaud Pontus dans 5 minutes. Avant ça, aujourd'hui l'économie, on va parler de l'aide financière apportée aux pays en développement pour les aider à faire face au changement climatique dont ils sont les premiers à subir les effets. 7h13, c'est l'Infosport sur RFI. Et du football pour commencer, Antoine Grenier, match sous haute surveillance pour l'équipe de France face à Israël.
Cinquième et avant-dernière journée de phase de groupe de la Ligue des Nations, les Bleus reçoivent les Israéliens dans un contexte qualifié de pesant par le sélectionneur de l'équipe de France, pesant à cause de la situation actuelle au Proche-Orient. Sécurité renforcée donc au Stade de France où l'équipe de France a besoin d'une victoire sur le terrain face à des adversaires redoutables, estime Didier Deschamps.
Déjà, c'est une équipe qui a marqué dans ces 4 matchs. Donc voilà, je m'attends à un match difficile aussi, parce que je sais très bien que cette équipe ne va rien lâcher. Ils récupèrent leur capitaine, Daza. Ils récupèrent un très bon joueur offensif aussi de Leeds, Solomon. Glouk est aussi, voilà. Je sais très bien qu'ils vont tout donner demain. Et Ça dépendra beaucoup de nous et ce qu'on fera, bien évidemment.
Didier Deschamps avec Saliou Diouf, coup d'envoi de la rencontre 19h45, temps universel.
Et à la même heure, l'Italie, leader du groupe, affrontera la Belgique.
Des Diables Rouges en difficulté avec seulement 4 points en 4 matchs. Les Belges doivent s'imposer s'ils veulent espérer disputer les quarts de finale. Alors pour dominer une Italie invaincue depuis le début, Domenico Tedesco va compter sur son milieu de terrain, emmené par Amadou Onana. À 23 ans, le joueur d'Aston Villa veut passer un cap.
Ça fait plaisir parce que voilà, c'est toujours bien de, voilà, d'avoir entre guillemets cette que vos pairs aient ce jugement-là sur vous. Je prends mon rôle de leader à cœur, dans le sens où j'essaie d'aider un maximum les jeunes qui viennent d'arriver. On en a énormément. C'est vrai que c'est une position un peu différente de d'habitude, mais voilà, c'est rien de surnaturel pour moi. Le coach attend tout le temps la même chose de moi. Il y a beaucoup d'autres joueurs qui me voient comme un leader, etc. Et je dois le montrer sur le terrain parce que je pense que c'est là que ça commence, c'est là ma tâche la plus importante. Mon rapport avec le coach a toujours été très bon jusqu'ici et voilà, il m'a toujours fait confiance. Et je pense que je lui rends bien.
Belgique-Italie, coup d'envoi 19h45. TU toujours dans cette Ligue des Nations, dans le groupe 4. Les champions d'Europe espagnole se déplacent au Danemark, pendant que la Suisse reçoit la Serbie, également au programme. Les matchs du groupe 1, Écosse-Croatie et Portugal-Pologne.
En basket, immense performance de Victor Wembanyama cette nuit lors de la victoire de San Antonio.
Le pivot français, auteur de 50 points et succès des Spurs sur Washington, 139-130. Wembanyama qui bat au passage son record de panier à 3 points, avec 8 tirs primés réussis à 20 ans et 314 jours, le Français devient le quatrième plus jeune joueur à inscrire 50 points dans un match NBA.
Enfin, en tennis, au Masters de Turin, Alcaraz et Zverev font respecter leur statut.
L'Allemand numéro 2 mondial a dominé le Norvégien Casper Ruud, 7-6-6-3, son deuxième succès en deux matchs, tandis que Carlos Alcaraz, numéro 3 à l'ATP, s'est imposé face à Andrei Rublev, 6-3-7-6. Ce jeudi, deux rencontres dans le groupe A, Yannick Sinner face à Daniil Medvedev et Taylor Fritz contre Alex de Minaur.
Merci Antoine Gagnier.
RFI Matin.
Il faut plus de financement pour les pays en développement. C'est l'appel lancé hier à la COP29 de Bakou par de nombreux dirigeants. Et le Bangladais, Mohamed Younous, a lui décrit à la tribune la situation humiliante des pays pauvres, contraints, je cite, de mendier pour résoudre les problèmes causés par les pays riches. Alors, financement, d'accord, mais qui et combien? On s'interroge ce matin dans Aujourd'hui l'économie. Bonjour Stéphane Geneste.
Bonjour Andréane.
Alors d'abord Stéphane, quelle est la situation aujourd'hui?
L'aide des pays riches pour les pays en développement est aujourd'hui de 116 milliards de dollars par an, mais les pays en développement, eh bien, ils demandent plus. Par exemple, l'Inde, le groupe Afrique et le groupe Arabe proposent de nouveaux objectifs de financement de 1 000 à 1 300 milliards de dollars par an, cela à l'horizon 2030.
Et alors, qui va payer?
Eh bien, c'est là que ça coince, hein. De COP en COP, certains pays se sont enrichis et changent de camp, entre guillemets. C'est par exemple le cas de la Chine, deuxième puissance économique mondiale, première pollueuse. Pékin estime payer assez. Il y a aussi le cas des États-Unis. Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche, il l'a dit, il veut couper les financements mondiaux pour le climat. Et puis il y a l'Europe qui veut contribuer davantage mais qui n'en a pas les moyens dans un contexte où les pays du continent adoptent des budgets d'austérité.
Il faut donc plusieurs acteurs.
C'est exactement ça, Andréane. Les spécialistes font souvent la comparaison avec un oignon. Chaque épaisseur correspond à une couche de financement. En son cœur, les financements publics. Les couches plus périphériques correspondent à d'autres financements privés.
Et de quelle forme?
Alors là, on parle de taxes sur les transactions financières. Par exemple, ces petites taxes, hein, entre 0,01 et 0,5% sont appliquées lorsqu'il y a un achat, vente d'actions ou d'obligations. Puisque les transactions financières, il y en a des milliers par minute, une taxe de ce type pourrait donc être utile pour financer l'aide au développement. Recours à cette option qui était d'ailleurs inenvisageable il y a quelques années. Aujourd'hui, elle est de plus en plus prise au sérieux par les spécialistes et devient même une piste concrète.
Et ce n'est pas d'ailleurs la seule option de financement.
Oui, hein, d'autres taxes sont mises en avant, comme par exemple la taxe sur les énergies fossiles, taxation également du transport maritime, secteur qui est très peu taxé. Hein, les armateurs disposent d'un régime fiscal d'exception. On peut aussi penser au secteur aérien d'ailleurs, avec une sorte de taxe grand voyageur, un système qui fonctionnerait comme celui des miles de fidélité, mais à l'inverse, plus un passager prendrait l'avion, plus le prix du billet augmenterait.
Et dans le viseur, les super riches.
Comme par exemple une ponction annuelle de 2% sur le patrimoine des milliardaires, taxe surnommée la taxe Zuckman, du nom de l'économiste qui la propose. Aujourd'hui, ce sont 3000 milliardaires de la planète qui échappent largement à l'impôt via de nombreuses stratégies fiscales. Cela pourrait ainsi rapporter 250 milliards de dollars par an. L'idée est donc que tout le monde participe au financement de l'aide climatique. D'ailleurs, la COP29 de Bakou sert à trouver une stratégie commune, de discuter de toutes ces options possibles et surtout, Andréane, que chacun y mette du sien.
Merci. Merci Stéphane Geneste. C'était aujourd'hui l'économie sur RFI, 7h19 à Paris. Arnaud Pontus, ce matin, vous interrogez Ophélie Coelho, chercheuse indépendante associée au Centre Internet et Société, autrice du livre « Géopolitique du numérique, l'impérialisme à pas de géant », c'est publié aux éditions de l'Atelier.
Bonjour Ophélie Coelho.
Bonjour.
Et bienvenue sur RFI. L'homme le plus riche du monde va faire son entrée au gouvernement des États-Unis. Elon Musk sera chargé de l'efficacité des administrations fédérales. Ça veut dire que ça y est, les rois de la technologie deviennent les rois du monde ?
Alors en tout cas, c'est très intéressant à observer, en tout cas, cette prise d'influence de la part des acteurs de la technologie. Après, c'est pas complètement nouveau le fait de nommer des entrepreneurs dans l'État. Même Trump l'avait fait avec Rex Tillerson, qui était PDG d'ExxonMobil et qui était secrétaire d'État lors de son dernier mandat. Mmh. Et puis, on peut rappeler vraiment des grands acteurs, comme l'ancien président de Ford Motor Company dans les années 60, hein, McNamara, qui était devenu secrétaire de la Défense sous l'administration Kennedy. Donc c'était vraiment sur des postes prestigieux. Là, il ne s'agit pas d'un poste ministériel, ni d'un poste de secrétaire d'État.
Oui, pas en tant que tel. On dit qu'il entre dans le gouvernement, mais on va dire techniquement, politiquement, ça n'est pas tout à fait juste.
Absolument. En fait, le terme de Department of Government Efficiency, ça fait Dodge, en fait, c'est presque un clin d'œil, plutôt, à la crypto-monnaie soutenue par Elon Musk, le Dogecoin, en fait.
Donc on lui fait une commission à son nom, rien que pour lui, en plus.
Oui, en fait, on peut imaginer que c'est une petite... Ouais. C'est, à mon avis, c'est quelque chose qui a dû se décider quand Trump et Elon ont pris un verre ensemble, ils se sont dit... Bah tiens, on va l'appeler Dodge, ça fera bien. Et en fait, c'est pas du tout un ministère, c'est un comité consultatif et en plus temporaire, c'est-à-dire de 16 mois pour le moment. Donc sur lequel en fait Musk et un autre entrepreneur, Ramaswamy, travailleront ensemble pour conseiller la Maison Blanche sur en fait les orientations, la réforme structurelle du gouvernement.
Oui, Trump attend de Musk qu'il dérégule, dégraisse l'appareil d'État, taille dans les dépenses, qu'il fasse la chasse au gaspillage, pour dire d'un mot. Est-ce que c'est dans les cordes d'Elon Musk ? Est-ce qu'il sait le faire, ça ?
Ben, en fait, bon, c'est pas vraiment son rôle. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui est connu dans le monde de l'entreprise pour des décisions de licenciement drastiques.
Oui, on
pour
se être souvient
plutôt
de son
autoritariste,
arrivée chez Twitter.
Voilà, avec un licenciement de bien de la moitié déjà des effectifs, donc c'était quand même pas rien. Avec des prises de risques quand même qu'on peut pas se permettre au sein d'un État. Donc en tant que ministre, ça aurait été compliqué en tout cas. Par ailleurs, il installe quand même une culture d'instabilité en général, avec des employés qui se sentent constamment sous une menace de licenciement. Donc ça, c'est quand même pas top en termes de relations humaines aussi. Donc, on pourrait imaginer qu'en termes de conseils, on pourrait avoir des applications sur le service public, un affaiblissement des services publics, encore aux États-Unis, puisque c'est déjà
le cas.
Il
y a un peu un choc des cultures quand même, là, entre le privé et le public. Enfin,
ouais,
vu de France, c'est ce qu'on se dit.
Bah, c'est-à-dire qu'il suit quand même une idéologie qui est libertarienne. C'est-à-dire en quoi c'est libertarien ? C'est la liberté individuelle avant tout, qui prône un État minimal et donc une intervention gouvernementale vraiment au minimum, réduite au strict nécessaire, et qui en plus de ça, en général, exprime plutôt une méfiance vis-à-vis des régulations étatiques. Donc c'est un peu contre-intuitif, en quelque sorte,
oui,
d'avoir un Musk au comité consultatif. Ouais. D'autant plus que, d'un côté, donc, il va avoir cette approche libertarienne, et de l'autre côté, il va être très subventionné par l'État, il a beaucoup bénéficié de l'État, donc c'est assez intéressant de voir ce
paradoxal. Est-ce qu'il va traiter les administrations américaines comme il traiterait une entreprise privée ?
Si vraiment il avait le pouvoir, on pourrait, si vraiment il était dans un ministère, on pourrait évidemment se poser la question. Là, on va voir ce qu'ils prennent et ce qu'ils ne prennent pas. Néanmoins, c'est clair que son objectif de l'efficacité, c'est de faire de l'État comme d'une entreprise. Et par contre, ce qui est un petit peu, inquiétant, c'est le modèle. Voilà.
Ouais.
Après, ce qui peut être inquiétant derrière, c'est qu'il y a quand même vraiment un conflit d'intérêts. Alors certes, le fait qu'il soit dans un comité consultatif le protège légalement d'accusations qui pourraient lui être faites. Je pense d'ailleurs que c'est un peu le but de le mettre dans un comité consultatif.
Il n'est pas au gouvernement formellement
pour éviter ce genre d'accusations. Ouais. Mais par contre, du coup, il va pouvoir en coulisses, du coup, orienter aussi des choix des gouvernements et des dépenses public, éventuellement vers des sujets et des industries qui sont à son avantage et voire même ses entreprises.
Qui le concernent directement.
Voilà.
On sait que c'est déjà un acteur très important. Hein. C'est devenu le principal fournisseur d'accès à l'espace de la NASA, notamment avec SpaceX. Donc évidemment, tout ça... Hein. On savait que les multinationales étaient puissantes, mais là, avec Musk qui gravite dans l'environnement du gouvernement américain, on se dit que là, elles sont plus que puissantes. Les voilà aux commandes.
On pourrait se dire ça. Alors après, c'est une forme de ploutocratie qui, encore une fois, n'est pas nouvelle, mais il y a une orientation vers une tech ploutocratie parce que les technologies, en effet, concentrent beaucoup de valeur aujourd'hui. Voilà. Après, ce qui se passe avec Elon Musk est la partie plutôt émergée de l'iceberg, et c'est la partie la plus médiatisée parce qu'il y a grande différence entre les leviers de pouvoir qu'ont des entreprises comme Microsoft, Amazon, Alphabet, qui reposent sur des dépendances qu'ils ont consolidées peu à peu en constituant des quasi-monopoles, et l'ensemble d'entreprises très fragmentées de Musk. On n'est pas du tout sur les mêmes configurations. Cela dit, ce que projette probablement Musk, justement, en prenant ce pouvoir-là, c'est justement d'influencer le marché de la tech, avec en face, du coup, des monopoles déjà, ou quasi-monopoles déjà bien installés. Lui, ce qu'il veut... honnêtement, quand il a racheté Twitter, on peut dire qu'en effet, il a voulu utiliser Twitter comme une caisse de résonance politique. Oui. C'est ce qu'il a fait, clairement.
Oui,
ce qu'il voulait faire aussi, c'était avoir une couche de données logicielles. Ce qu'il veut faire, c'est faire en sorte d'avoir une énorme plateforme technologique, à la fois sur du logiciel et sur les données. Donc Twitter, enfin X en fait partie. XAI, donc sa partie intelligence artificielle en fait partie. Oui. La conduite autonome des Tesla, c'est aussi du logiciel. Et de l'autre côté, on a l'infrastructure avec Starlink, notamment la constellation infrastructurelle, télécom. Et donc, en fait, il se mesure de cette manière-là à des grandes entreprises telles que Alphabet. Donc, il faut penser en fait aussi en termes de projet final. Son projet final, c'est vraiment de devenir un empire technologique. Après, c'est un empire technologique qui peut être au pied d'argile, parce que quand une entreprise ne repose que, en quelque sorte, sur la stratégie d'un seul homme, on peut aussi l'attaquer, on peut aussi l'affaiblir à l'avenir.
Dans vos travaux, vous décrivez la redistribution des pouvoirs entre les acteurs étatiques et privés. Là, on est carrément à un point de collusion, quasiment de fusion.
Oui, c'est vrai. Après, moi, je modère toujours un peu les choses par rapport à Musk, parce que certes, c'est le personnage le plus visible, mais dans les faits, ces produits restent quand même minoritaires. C'est-à-dire qu'il n'est pas monopolistique, ne crée pas de monopole, sauf en ce qui concerne la NASA et SpaceX. Certes,
déjà pas mal quand même.
Cela dit, il faut quand même aussi penser à une chose. Elon Musk apparaît comme une personne, comme un génie, une personne fascinante qui aurait tendance à tout gérer. Mais bon, c'est quand même une personne qui arrive à trouver le temps de parasiter Twitter et de devenir l'un des meilleurs joueurs sur une plateforme de jeu Diablo 4 qui est extrêmement chronophage. Donc il faut bien s'imaginer que les personnes qui gèrent vraiment ces entreprises, c'est pas lui.
C'est pas lui qui gère. Une question connexe, puisqu'on voit là quelqu'un qui est dans les techs arriver pour gérer les administrations en quelque sorte. Et c'est un peu, ça rejoint nos grandes peurs. Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les fonctionnaires américains ?
Oh, il pourra essayer de le faire. Est-ce que ça marchera ?
Est-ce que les outils d'aujourd'hui permettraient de le faire ?
En fait, l'intelligence artificielle, entre guillemets, les outils en tout cas qui sont fondés sur certaines technologies d'intelligence artificielle, peuvent remplacer certaines tâches, mais ne remplacent jamais, en fait, ne remplacent pas les travailleurs sur ces postes-là, en fait. On va avoir, en fait, des tâches qui vont être modifiées, mais on va pas avoir un remplacement de l'humain. Oui. Et d'ailleurs, il faut pas qu'il y ait un remplacement de l'humain.
Dans l'idéal, moi je suis pas vraiment pour non plus. On est en train de basculer dans un monde nouveau, on le voit bien notamment avec cette nomination, mais c'est pas encore le monde qui nous fait peur.
Alors je dirais que d'une certaine manière, si. Parce que il y a beaucoup de dépendances dont je parle beaucoup d'ailleurs qui sont pas visibles et qu'on met pas beaucoup en lumière, les vraies dépendances technologiques en fait qui ont un impact géopolitique sur lesquelles en fait les États comme les États-Unis vont négocier. On peut prendre un exemple quand Vance menace l'Europe en fait de retirer les États-Unis de l'OTAN s'ils tentent de réguler la plateforme X. C'est quelque chose qui s'est déjà passé en réalité quand on a voulu négocier sur le gaz de schiste et la réglementation européenne.
Donc c'est l'accès. Ça va se jouer.
Le contexte géopolitique.
Merci à vous.
Entretien avec Arnaud Santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
Journée mondiale du diabète, mieux lutter contre cette épidémie mondiale.
Demain,
émission Questions de femmes, fausses couches et postpartum.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur le thème d'aujourd'hui.
La baisse de la natalité devient un phénomène mondial et va bouleverser à terme les sociétés et nos modes de vie. Alors faut-il vraiment s'inquiéter d'un futur sans enfants ou au contraire en saisir les opportunités ?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI. C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Allons-nous réussir à préserver une planète habitable pour tous les humains en harmonie avec l'ensemble du vivant ? C'est la question à laquelle nous répondons chaque semaine dans C'est pas du vent. La bonne nouvelle est que nous connaissons le chemin pour y parvenir. Toutes les solutions sont à notre portée.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à 14h10 TU sur RFI.